Chapitre 9, Science et Religion. Cette discussion religieuse martyre un certain nombre de lettres que je lis avec soin et avec gratitude, alors même que leurs auteurs y épanchent leur bile sans aménité. Je trouve, sous la plume de quelques correspondants, un reproche que M. Herriot insinue lui-même dans son récent ouvrage « Créé ». Il paraît que les catholiques ont le tort de ne pas laisser la science tranquille, de faire intervenir des savants qui ne demandent qu'à poursuivre en paix leurs précieuses expériences dans le calme du laboratoire, et qu'ils enchevêtrent fâcheusement le domaine de la religion et de la science qui doivent rester distincts. Mes correspondants m'écrivent-ils ainsi parce qu'ils ont peu de mémoire ou trop d'aplomb? Quoi qu'il en soit, leur grief parfaitement injuste est un signe des temps. Il marque précisément l'échec définitif de cette offensive de vaste envergure et d'une portée politique considérable que déclenchèrent, sinon les vrais savants, du moins les scientistes, et qui ne tendait à rien moins qu'à absorber le domaine de la religion dans celui de la science. Celle-ci devant tuer celle-là. Je me propose donc de montrer aujourd'hui la réalité, les raisons et les développements de cette offensive, me réservant d'indiquer dans le chapitre suivant les conséquences de son insuccès.
« Que le sera-t-elle ces tristes années 80 ?» écrit M. Paul Claudel dans le récit de sa conversion. « L'époque du plein épanouissement de la littérature naturaliste. Jamais le joug de la matière ne parut mieux affermi. Tout ce qui avait un nom dans l'art, dans la science et dans la littérature était irreligieux. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle finissant s'étaient surtout distingués par leur hostilité à l'Église. Renan régnait. Il présidait la dernière distribution de prix du lycée Louis-le-Grand à laquelle j'assistais, et il me semble que je fus couronné de ses mains. Victor Hugo venait de disparaître dans une apothéose. À 18 ans, je croyais donc ce que croyaient la plupart des gens cultivés de ce temps. J'acceptais l'hypothèse moniste et mécanique dans toute sa rigueur. Je croyais que tout était soumis aux lois et que ce monde était un enchaînement dur d'effets et de causes que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement.
On était ébloui par une foule de découvertes qui avaient donné un essor splendide à l'industrie, qui ajoutait aux fêtes et aux spectacles des prestiges nouveaux, des enchantements inédits. Que dis-je, Claude Bernard et ses disciples avaient réussi à paralyser et à guérir les lobes les plus délicats du cerveau, provoquant ainsi des éclipses et des retours d'intelligence et de sensibilité. L'âme était-elle autre chose qu'un mécanisme cérébral ingénieux? Ce cerveau lui-même était-il le produit d'une création divine, ou le résultat de la lente évolution de la matière dont Lamarck et Darwin s'étaient flattés de décrire rigoureusement les étapes? La vie elle-même, cette force mystérieuse, n'allait-elle pas sortir demain des cornues magiques de M. Berthelot, qui, non content de se livrer comme ses prédécesseurs à de laborieuses analyses, avait réussi de puissantes et troublantes synthèses, et qui disait fièrement dans son livre « Science et morale »
« Le triomphe universel de la science arrivera à assurer aux hommes le maximum possible de bonheur et de moralité !»
Toutes ces découvertes exposées dans le style enjôleur d'Ernest Renan, prolongées par ses audacieuses hypothèses, formaient une synthèse enivrante.